Digue Radio, Digue Radio, la radio qui vous écoute.
Bonjour à tous, bienvenue pour la troisième émission de Parlons Immobilier. Déjà la troisième avec le club d'affaires Parlons Immobilier. On rappelle les coprésidents Emilien Castro, gérant d'Illico Travaux, et Nicolas Giraud, gérant de Giraud Immobilier. Et pour cette troisième émission, Emilien, bonjour à toi.
Bonjour Nicolas.
On va parler un peu des SCI et on reçoit Mathieu Auger, expert comptable à Sainte-Flèves-les-Loups. Sainte-Flèves-les-Loups, pour le situer, c'est basé entre la Roche et les Sables-le-Dolonne. Et vous allez discuter un peu des SCI. Je te laisse la main, Emilien. Bonjour à toi, Mathieu.
Bonjour à vous deux.
Merci. Bonjour Mathieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, le sujet, ça va être les SCI, un sujet important, un sujet compliqué. Et Mathieu, tu vas un petit peu nous éclairer sur ce sujet.
Exactement.
Première question, tout simplement déjà, c'est quoi concrètement une SCI ?
Alors une SCI, dans un premier temps, c'est une société. La SCI, donc, c'est l'acronyme de Société Civile Immobilière. Une société composée de deux personnes au minimum, personne physique ou personne morale. Le but d'une SCI, principalement, c'est de détenir des actifs ou éventuellement des titres rattachés à des supports immobiliers. Donc on peut retrouver, par exemple, dans une SCI, vous pouvez retrouver un parking, une maison, un appartement ou des parts de SCPI pour la constitution.
Ma deuxième question, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est aujourd'hui, si j'achète un bien, pourquoi monter une structure comme une SCI plutôt que tout simplement acheter le bien à titre personnel et puis le mettre en location ou le revendre comme ça ?
Alors déjà, il ne faut pas avoir en tête que le montage d'une SCI va vous permettre d'éluder l'impôt. Ça ne va pas être le cas. Faut pas monter une structure juridique juste pour se dire je monte une structure, je vais pouvoir éviter l'imposition. Il y a d'autres raisons qui sont bien utiles dans le cadre du montage d'une SCI. Éventuellement, si vous avez envie d'acheter un bien immobilier à deux sans être marié, en couple sans être marié, vous pouvez aussi gérer la SCI. Ça apporte l'avantage en fait de pouvoir gérer une structure et un bien immobilier. En détenant à plusieurs, donc modifier un peu les règles de gestion par rapport à une indivision. Vous pouvez également, en fait, ça peut être un outil de transmission, la SCI. Ça peut être un outil qui est utilisé pour faire des levées, notamment pour le financement également. Ça peut faciliter par rapport à un investissement en direct, en indivision. Et puis, ça peut aussi permettre la SCI de gérer différents montages et en fait détenir un bien à plusieurs. Les différents intérêts de la SCI.
Et sur une SCI, quelqu'un qui serait par exemple multipropriétaire, hein, on commence à avoir 2-3 biens, est-ce qu'il faut à chaque fois une SCI par bien ou une SCI peut détenir plusieurs biens ?
Alors une SCI peut détenir plusieurs biens, il n'y a aucun souci avec ça. En général, ce qui peut être bien, c'est de détenir une SCI si vous avez, par exemple, un patrimoine immobilier professionnel et un patrimoine immobilier personnel. On peut conseiller dans ce cadre-là de monter une SCI un peu plus destinée au patrimoine immobilier professionnel et puis une SCI destinée au patrimoine immobilier personnel. Voilà, ça évite la confusion en fait des patrimoines entre le pro et le perso. Et ça peut être aussi un avantage d'avoir plusieurs SCI dans ce cas-là.
Si demain je veux monter une SCI, comment je fais à part en t'appelant comment ça va se passer le montage de la SCI ?
Alors le montage d'une SCI, comme toutes les sociétés, ça requiert l'établissement de statuts, donc la mise en place de statuts qui détermineront en fait un certain nombre de règles pour la constitution de la société, notamment l'apport de chaque associé, le nom de la SCI, l'emplacement du siège social, le capital, la durée de vie de la SCI et les modalités de son fonctionnement. Voilà, c'est un des intérêts de la SCI, les modalités de fonctionnement qui peuvent être établies dans les statuts de façon différente en fait d'une indivision. Qui peut monter une SCI ? Vous avez déjà les avocats en droit des sociétés. Vous avez aussi des notaires qui peuvent créer les SCI et enfin une SCI et enfin des experts comptables qui font des constitutions de SCI.
Alors tout à l'heure, tu parlais un petit peu de tout ce qui était imposition, c'est pas parce qu'on monte une SCI qu'on va échapper à l'impôt, etc. Quels sont justement sur l'imposition, comment est imposée une SCI ? Qu'est-ce qu'il y a comme type d'imposition sur une SCI ?
Alors Par principe, la société, la SCI étant une société civile immobilière, elle est par définition soumise à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire en transparence fiscale, du fait de son objet civil, mais il y a possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc la différence entre les deux, c'est si vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu, vous allez en fait, entre les différents associés, répartir le résultat de la SCI entre les associés qui seront imposés à l'impôt sur le revenu, ces résultats-là. Alors que si vous êtes à l'impôt sur les sociétés, le résultat de la SCI, on va considérer qu'il reste dans la SCI et il va être imposé à l'impôt sur les sociétés, donc au taux de 15% jusqu'à 42 500 euros de résultat et ensuite au taux de 25%. Donc la différence aussi qu'il peut y avoir entre une société à l'impôt sur le revenu et une société à l'impôt sur les sociétés, va y avoir une différence sur la taxation des plus-values notamment. Donc voilà, la plus-value des particuliers et la plus-value à l'impôt sur les sociétés sont différentes. Il y a des différences aussi en termes d'obligations au niveau entre une SCI à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu. Une société à l'impôt sur les sociétés va être obligée de tenir une comptabilité, alors qu'une société à l'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'obligation comptable, même s'il est fortement conseillé quand même de tenir une comptabilité.
Donc, on va essayer de récapituler un petit peu tout ça, c'était assez technique. La SCI, elle va avoir déjà plusieurs intérêts, le fait de pouvoir se mettre à plusieurs.
C'est ça.
Notamment dans le cadre d'un couple qui ne serait pas marié et qui voudrait acheter un bien en commun. Ça peut aussi servir donc à dissocier son patrimoine pro et son patrimoine perso.
Exactement.
Et en termes d'imposition, on a les deux possibilités, à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, alors que si on fait un investissement immobilier à titre personnel, on va toujours et obligatoirement être imposé sur son impôt sur le revenu.
Exactement, ça laisse en fait la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés si on le souhaite. Il y a aussi un élément important c'est de la SCI, c'est qu'en fait, en cas d'indivision, en fait, ça évite l'indivision. L'indivision, oui. On sait que ça peut créer un problème éventuellement quand il y a un décès et les enfants se retrouvent avec un bien en indivision. Quand on parle de part de SCI, c'est plus facilement cessible. On peut plus facilement les vendre ou les transmettre que transmettre une indivision. En termes de fonctionnement, parfois, on peut avoir des blocages, notamment au moment de la cession du bien.
Oui, donc la SCI peut aussi avoir un intérêt pour la succession, en fait. Ça permet de mieux gérer la succession que si tous les biens sont achetés à titre perso.
Exactement.
Et par rapport à... J'ai vaguement entendu parler de ça, hein, je ne suis pas un spécialiste. Par rapport à la SARL de famille, c'est quoi la différence?
Alors la SARL de famille, c'est la différence, c'est que déjà, par définition, dans son nom, la SARL de famille, c'est une société qui est créée entre les membres d'une même famille. Voilà, donc il y a un certain nombre de critères qui permettent de définir quels membres d'une même famille peuvent créer une SARL de famille. L'avantage de la SARL de famille par rapport à la SCI, c'est que dans la SCI, les associés ont une responsabilité beaucoup plus engageante que dans une SARL. Une SARL, c'est une société donc à responsabilité limitée, comme son nom l'indique, que quand dans une SCI, vous allez avoir une responsabilité indéfinie des associés, une responsabilité non solidaire et une responsabilité subsidiaire. Voilà, donc il y a trois responsabilités qui sont, ce sont des termes assez techniques, mais en fait ça engage beaucoup plus les associés que dans une SARL classique. Ou SARL de famille.
Et si on monte encore les échelons, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, et est-ce qu'il n'est pas conseillé, même dans le cadre d'un patrimoine immobilier qui serait un petit peu plus important, d'avoir même une holding qui détiendrait une ou plusieurs SCI avec du patrimoine pro et du patrimoine perso par rapport à la succession, je pense notamment. Parce qu'aujourd'hui, la succession patrimoniale peut coûter beaucoup d'argent aux héritiers. Est-ce que cette solution de la holding peut être avantageuse?
Alors ça peut être un avantage et éventuellement avec dans le cadre de la mise en place d'un pacte Dutreil. Voilà, c'est des termes qui doivent être vus avec des avocats fiscalistes. Mais ça peut être des éléments intéressants dans le cadre d'une transmission notamment, de mettre en place une SCI.
Revenons un peu sur le sujet de la SCI. Donc moi je vais rebondir hein, toujours sur le côté famille et sur le côté couple qui achète un bien à deux alors qu'ils ne sont pas mariés, malheureusement, il arrive que ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va arriver ? Est-ce qu'on peut vendre nos parts d'une SCI si on est deux et que l'un des deux associés dans la SCI souhaite se désengager ?
Alors déjà, il faut bien comprendre le fait que dans une SCI, il y a forcément deux associés. Donc s'il y a un associé qui se désengage, à un moment donné, il va falloir retrouver un associé. Voilà. Sinon l'objet de la SCI tombe. Donc vous dans ce cadre-là, il y a possibilité tout à fait de céder des parts de SCI. En fonction de votre imposition, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, vous allez avoir une imposition différente. Donc le cadre de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que si votre société est à l'IR, vous allez être imposé au régime des plus-values des particuliers. Donc vous allez avoir une plus-value qui va être de 19% plus les prélèvements sociaux, donc autour des 36,2%. Vous avez en fonction du durée de détention des parts de la SCI des abattements. À partir de la sixième année, vous allez commencer à avoir un abattement qui va être dégressif de la plus-value jusqu'à la 22e année. Mmh. Et pour les prélèvements sociaux, cet abattement va courir jusqu'à la 32e année, cet abattement. D'accord. Sur la plus-value. Voilà. Alors que dans le cas d'une société à l'impôt sur les sociétés, vous allez être soumis au régime de la plus-value plus classique des sociétés commerciales.
Oui, là, c'est un petit peu plus clair. Petite précision quand même, hein, pour celles et ceux qui se posent la question, on parle bien d'imposition sur la plus-value et pas sur le montant de la vente.
C'est ça, voilà, exactement.
Donc, si on considère que le bien valait 100 000 euros à l'achat, qu'il est vendu 150 000 euros, c'est uniquement sur les 50 000 euros que l'imposition se calcule et non pas sur les 150.
Exactement, avec un certain nombre de frais qui peuvent également rentrer dans le calcul de la plus-value. Voilà, toujours se fier à un professionnel, oui, pour ce calcul-là, bien sûr.
Et il restera toujours dans tous les cas de la plus-value puisque l'imposition ne va se faire que sur la plus-value. C'est important de le signaler. Et puisque nous sommes dans l'imposition, justement, est-ce qu'il y a un régime fiscal particulier à prendre en compte ?
Alors, il peut y avoir un régime fiscal quand on souhaite faire de la location, notamment de la location meublée. Il y a le régime du LMNP qui est un régime fiscal un peu particulier pour tous les gens en fait qui détiennent un bien et qui souhaitent faire de la location incluant du mobilier dans ce bien. Donc l'avantage de ce régime qui est appelé le LMNP, qui est assez courant, souvent on en entend parler, donc on entend un peu tout sur le sujet.
LMNP qui veut dire ?
Loueur meublé non professionnel. Pourquoi non professionnel ? Non professionnel puisque, en général, les loyers encaissés ne doivent pas être supérieurs à 23 000 euros. C'est la limite. Au-delà de ça, on passe en loueur meublé professionnel. Ou si éventuellement ces loyers dépassent 23 000 euros, les revenus LMNP ne doivent être inférieurs ou égaux aux recettes totales perçues par les adhérents du foyer fiscal. Donc voyez, il y a une autre limite éventuellement qui s'applique. Et si on dépasse cette limite, on passe en loueur meublé professionnel. Voilà, donc l'avantage de la location meublée non professionnelle, il y a un certain nombre d'avantages fiscaux, notamment l'amortissement du bien qui réduit en fait les revenus et qui, dans le cadre d'une détention en fait d'un bien en propre par le particulier, permet en fait d'avoir une imposition minime. Donc aujourd'hui, c'est un régime qui est relativement regardé par les hommes politiques dans une période d'économie d'impôts, puisque voilà, ça reste plus ou moins une niche fiscale. Et donc on entend régulièrement, dernièrement, là, il y a une quinzaine de jours, il y avait encore un article dans Les Échos qui faisait état en fait de la remise en question de ce régime. Voilà, c'est un régime qui aujourd'hui est plutôt avantageux, mais qui risque d'évoluer dans les prochaines années en fonction de l'évolution de la fiscalité.
Une autre question par rapport à tout ça, alors là ça va être plus une question qui va avoir un rapport avec mon activité. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus intéressant, fiscalement parlant toujours, du neuf ou de l'ancien ou de l'ancien rénové?
Alors l'avantage de l'ancien rénové, c'est qu'au moment de l'acquisition et pendant une certaine période, vous allez créer du déficit puisque vous allez faire des travaux. Donc tout pendant cette période de travaux, vous avez la possibilité en fait de minimiser vos revenus de par ce déficit. Donc en fonction de la structure juridique que vous allez choisir, Si vous êtes dans une SCI à l'impôt sur le revenu, par exemple, vous allez avoir du déficit créé, du déficit foncier, qui va pouvoir s'imputer sur d'autres revenus fonciers éventuels que vous pourriez avoir avec d'autres biens. Voilà.
Et donc ça sera valable tout au long de la vie du bien et de la vie de la SCI pour tous les travaux qui vont être effectués.
C'est ça.
D'où l'intérêt pour les propriétaires quand même de rénover régulièrement leur logement pour déjà permettre à leurs locataires de vivre dans un bien qu'on pourrait qualifier de sobre énergétiquement et puis décent. Et fiscalement, en plus de ça, finalement, le propriétaire s'y retrouve lorsqu'il fait des investissements en travaux.
Voilà. Je vois où tu vas en venir par rapport à la dernière interview, je crois, d'un acteur de Parlons Immobilier, c'est ça, pour la rénovation ?
Plus ou moins, effectivement.
Ah, d'accord.
Donc maintenant qu'on a parlé de travaux, on a parlé un petit peu d'imposition, on a parlé de plein de sujets. Pour certains, ça restera peut-être encore un petit peu flou. Quel est votre rôle en tant qu'expert comptable ? Comment vous allez pouvoir aider nos auditeurs qui se posent encore des questions ?
Alors si vous voulez, quand on a une personne qui vient nous voir, moi j'ai régulièrement des contacts d'investisseurs qui viennent à ma rencontre, qui en fait on choisit d'acquérir un bien, mais en fait ils ne savent pas quel statut choisir. Alors il faut bien comprendre que il n'y a pas de statut prédéfini qui vont fonctionner à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fonction de votre patrimoine, en fonction de ce que vous allez vouloir faire du bien, en fonction de votre imposition actuelle, vous allez avoir un certain nombre de régimes qui vont être possibles, donc de régimes de détention du bien. Il y en a qui préfèrent en propre, il y en a qui vont le détenir via une SCI, il y en a qui vont préférer une société commerciale, puisqu'en fait, en posant les premières questions, on va identifier que la personne ne souhaite pas faire de la location classique et de la détention d'un bien comme pourrait l'être, ça pourrait l'être dans le cadre d'une SCI, mais plus utiliser cette activité comme étant une activité de marchand de biens. Donc l'activité de marchand de biens, une SCI n'est pas faite pour faire une activité de marchand de biens, puisque l'activité de marchand de biens est une activité commerciale et donc nécessite la mise en place d'une structure pour gérer ce type d'activité. Donc ça peut être une SAS, une SARL ou d'autres types de structures qui servent dans le cadre du marchand de biens. Voilà, donc en fait, chaque profil est différent, chaque projet est différent, et c'est pour ça qu'il est important de venir voir un expert comptable, d'en discuter avec son notaire, voir un avocat fiscaliste également, pour bien s'assurer que le régime est le meilleur régime ou le choix de la structure juridique est optimal par rapport à son projet.
Du coup, on va commencer tout de suite, parce que moi j'ai un projet avec ma compagne et puis j'ai quelques questions. Donc là on va voir ensemble, Mathieu, si tu peux déjà m'orienter un petit peu. Concrètement, on souhaite acheter un bien qui aujourd'hui est à 60 000 euros. Il y a environ entre 110 et 120 000 euros de travaux à faire à l'intérieur. Donc c'est un bien qui a rénové complètement. Moi je suis déjà propriétaire de ma résidence principale, ma compagne non, et on n'a pas d'union civile, mais on voudrait quand même le faire tous les deux. Comment tu nous conseilles de faire? Est-ce que là, comme ça, tu as un premier conseil à nous donner?
Aujourd'hui, si tu veux, vous n'avez pas d'union civile, donc créer une structure justement pour votre projet commun peut être pertinent, parce qu'en fait ça évite d'avoir ce système de l'indivision qui, en cas éventuel de conflit, je vous le souhaite pas, mais il faut envisager tous les cas, peut vous mettre dans une situation de blocage par rapport à la détention du bien. Donc déjà, vous pouvez faire une première analyse en vous disant, voilà, le fait d'avoir une structure juridique en place de type société nous permettra, en cas de désaccord, d'avoir des règles qui sont déjà fixées dans les statuts, notamment de la structure. Éventuellement, il peut y avoir également de mis en place un pacte d'associés si vous voulez aller un peu plus loin dans la fixation des règles de fonctionnement entre vous en tant qu'associé. Voilà, donc déjà, c'est la première protection, c'est de mettre en place ces structures pour réglementer un peu votre vie d'associé et vos relations en tant qu'associé. Après, le choix de la structure juridique va se faire en fonction de votre imposition actuelle. On va voir aussi votre projet. Donc là, vous avez un projet avec beaucoup de travaux, donc il va y avoir potentiellement du déficit les premières années. Voilà, donc ce déficit, comment vous allez vouloir l'utiliser? Est-ce que vous allez vouloir essayer de l'imputer sur vos revenus globaux du couple? Et dans ces cas-là, partir sur une structure foncière sera peut-être pas forcément pertinent. Il faudra peut-être plus partir sur une structure un peu plus commerciale. Voilà, il y a énormément de sujets qui vont être abordés et qui vont être importants à prendre en compte pour le choix de la structure à ce moment-là.
D'accord, très bien. Bah, écoute, je te remercie pour ces premiers conseils. Déjà, ça me permet d'orienter un petit peu notre projet. Est-ce que tu as des sujets, des choses à ajouter par rapport à notre entrevue d'aujourd'hui ?
Bah écoutez, aujourd'hui, l'entretien donc sur la SCI, de façon générale, bah il faut aussi que les gens se fassent une idée un petit peu, que nos auditeurs se fassent une idée du coût éventuel d'une SCI, le coût de mise en place. Alors vous pouvez avoir tout type, en fonction des interlocuteurs avec qui vous adressez, vous pouvez avoir tout type de sujets bien différents qui peuvent faire augmenter en fait le coût de montage d'une SCI. De façon générale, si vous voulez monter une SCI, on va dire un peu classique, sans critères bien spéciaux, on va être entre 1000 et 1500 euros pour le coût de montage d'une SCI, de création de la SCI. Et puis après, si vous voulez éventuellement avoir des conditions bien particulières d'entente entre les associés ou de règles de fonctionnement entre les associés, dans ces cas-là, vous pouvez le coût forcément peut augmenter en fonction du conseil qui est nécessaire pour ce montage. Mais on va dire qu'une SCI classique pour un couple ou pour une famille ou pour deux associés, voilà, on va être entre 1000 et 1500 euros. C'est à titre indicatif, bien sûr, en fonction de l'interlocuteur auquel vous vous adressez et en fonction de la technicité du dossier. Bien sûr, ça peut évoluer à la hausse.
Très bien. C'est bien entendu hors frais de fonctionnement, frais de tenue de comptabilité dans le cadre d'une SCI qui serait soumise à l'IS, comme tu l'as évoqué au début de notre échange. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces informations et pour toutes ces précisions.
Merci.
Et puis moi de mon côté, je vous dis au mois prochain avec une nouvelle émission de Parlons Immobilier sur Digue Radio.
Toute la journée, vous écoutez Digue Radio sur digradio.fr.